Est-ce que vous aimez recevoir des critiques? Je vais vous en faire une. Frères et sœurs de Calvary Chapel, vous n'êtes presque jamais à l'heure. Peut-être vous allez me dire, oh, c'est facile, la critique est aisée, mais l'art difficile, comme a dit un auteur du XVIIe siècle. But it's hard to do the work. La façon dont nous réagissons aux critiques est quelque chose de vital pour notre vie. J'aimerais reprendre trois principes dont Chuck Swindoll parle, un auteur américain. Le problème, comme vous venez de le voir, c'est que personne n'est à l'abri des critiques. Ça fait partie intégrante de la vie humaine. Si vous vivez avec des gens, vous allez recevoir des critiques. Sans doute que vous allez faire des critiques aussi. Que ce soit dans la famille, dans le travail, entre amis, dans le mariage. Les critiques vont fuser. La façon dont on se défend des fois des critiques, c'est de dire que il n'y a que ceux qui font rien qui ne sont pas critiqués. On verra que ça peut être très juste. Un deuxième principe, c'est que les critiques, on peut les prendre soit trop légèrement, soit trop sérieusement. Trop légèrement.
So if we don't take it seriously,
Pierre nous a dit qu'on était en retard.
Pierre said, we're late.
Faut pas exagérer. C'est pas bien grave.
It's exaggerating. That's not very serious.
C'est l'heure de Calvary. On décale d'une demi-heure le dimanche. Ou alors on peut les prendre trop sérieusement. Et là, on peut se décourager. On peut être intimidé, ça peut nous paralyser. Vous ne dormez pas la nuit du samedi au dimanche pour être sûr d'être à l'heure. Et là aussi, il y a un juste milieu. Quelqu'un a dit, ce que les gens disent de nous n'est jamais complètement vrai. Mais ce n'est jamais vraiment faux non plus. Peut-être c'est un peu comme quand on va tirer sur une cible. Peut-être que ça ne va pas atteindre le centre, le mille, en plein mille. Mais c'est rare que les gens ratent complètement la cible. Troisième principe, un corollaire, c'est qu'il faut répondre à certaines critiques. Mais la plupart du temps, on peut les ignorer. Et nous allons voir comment l'apôtre Paul réagit face aux critiques. Vous souvenez qu'il avait encouragé les chrétiens de Corinthe à se montrer généreux.
You
pour la collecte de dons en faveur des chrétiens de Jérusalem. Et au début du chapitre 10, où nous trouvons dans 2 Corinthiens, le ton redevient plus dur. Certains pensent que c'est peut-être en fait une autre lettre qui a été rajoutée à la deuxième lettre aux Corinthiens. Et il y a des raisons de style ou d'échange de lettres. Mais la raison qu'ils mettent en avant et qui paraît peut-être la plus probable, c'est qu'en principe, quand on demande aux gens de l'argent, on ne vient pas les critiquer tout de suite après. Peu importe la raison, il va nous montrer comment réagir. Nous l'avons déjà dit dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre, il se défend non pas parce qu'il est blessé personnellement, qu'il veut défendre son ego, mais c'est pour défendre son ministère. Dans l'effet, l'impact qu'il peut avoir sur des gens ou ne pas avoir. Et donc, s'il se défend, c'est parce qu'il veut défendre des gens qui reçoivent son message. Nous allons lire le chapitre 10. Moi, Paul, je vous exhorte par la douceur et la bienveillance de Christ, moi qui suis humble en face de vous et qui de loin suis plein de hardiesse à votre égard, je vous en prie que je n'ai pas, une fois présent, à montrer la hardiesse et l'assurance dont je compte user avec audace contre ceux qui estiment que nous marchons selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Regardez les choses en face. Si quelqu'un s'est persuadé lui-même d'être à Christ, qu'il tienne compte pour lui-même de ceci. S'il est à Christ, nous le sommes aussi. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour vous édifier et non pour vous abattre, je ne serai pas confus. Je ne veux pas paraître vous intimider par mes lettres, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Qu'il tienne compte de ceci, cet homme-là. Tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes en acte une fois présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure le domaine que Dieu nous a départi en nous faisant parvenir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'y étions point parvenus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile du Christ. Nous ne nous glorifions pas hors de toute mesure des travaux d'autrui, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine. En évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. De toute évidence, il y avait un échange de critiques et de réponses de Paul. Mais c'est un peu comme si on écoute la conversation de téléphone d'un seul côté. Il faut déduire d'après ce qui est dit, ce qui est dit par l'autre. Et donc, en reprenant un peu ce passage, nous allons essayer de voir quelles étaient les critiques formulées et comment Paul y répondait. Paul leur dit qu'il les exhorte, c'est-à-dire qu'il les encourage vivement par la douceur et la bienveillance de Christ. Et puis il dit, moi qui suis humble en face de vous et qui de loin suis plein de hardiesse à votre égard. Et là, on comprend qu'il le traitait en fait d'hypocrite. L'hypocrite, dans le théâtre grec, c'était celui qui parlait derrière un masque. Et donc, ils accusaient Paul d'être tout bon, tout doux quand il était devant eux, en présence, en personne. Mais que quand il était loin, il leur envoyait des lettres carabinées, très sévères, dures. Paul répond en disant qu'il suit l'exemple de Jésus. Que la dureté et la tendresse et l'humilité ne sont pas inconsistants. Ce qu'il invoque, ce n'est pas son autorité de chef, mais la douceur et la bienveillance de Christ. Puissions-nous aussi, quand nous répondons aux critiques, être inspirés par Christ, lui qui, des fois, se tenait silencieux devant ses accusateurs, et qu'il laissait Dieu le défendre, en quelque sorte, nous dit Pierre. Et qui en même temps pouvait avoir des paroles très dures lorsqu'il fallait confronter. Souvenez des épisodes avec les pharisiens. Christ ne mâchait pas ses mots. Ça, c'était une des premières critiques à laquelle il répondait. Je vous en prie que je n'ai pas une fois présent, verset 2, à montrer la hardiesse et l'assurance dont je compte user avec audace contre ceux qui estiment que nous marchons selon la chair. On le traitait d'homme charnel. Quelqu'un qui réagissait comme un non-chrétien l'aurait fait. Et sa réponse, c'est qu'il ne va pas répondre de façon charnelle. Nous avons étudié en détail dimanche dernier les versets 3 à 5. Je ne vais pas revenir sur ce que nous avons dit. C'est un enseignement pourtant critique, très important. Que l'on peut détacher de son contexte pour le faire parler de la bataille spirituelle qui existe. Et dans laquelle les armes humaines n'ont aucun effet. La façon dont nous devons garder nos pensées, parce que c'est là que tout se joue. Si vous voulez écouter le message, je vous invite à m'en parler. Mais si Paul utilise ces versets pour dire qu'il ne va pas réagir violemment, de façon charnelle. Manner, J'aimerais citer Alan Redpath. Pierre. Qui parle justement de cette façon de ne pas réagir. Il dit quand lorsqu'on nous rapporte une remarque déplaisante faite à notre contre nous, alors notre nature charnelle, c'est-à-dire notre vieille nature, nous crie vas-y, contre-attaque. Par contre, celui qui marche selon l'esprit, qui était en Christ Jésus, il va s'humilier, il va reconnaître que tout ce qui est dit de critique à son sujet n'est qu'un centième de fois aussi mauvais que ce qui pourrait être dit si la vérité était connue. Nous n'avons donc aucune raison de contre-attaquer, mais une bonne raison de nous soumettre et d'oublier. Si la vérité était connue, peut-être que les critiques en fait seraient pas à la hauteur des raisons de critiquer. Paul ne répond pas dans la violence verbale. Il utilise des armes spirituelles. On peut être sûr qu'avant d'écrire ses lettres, ses paroles, il a beaucoup prié. Nous allons voir qu'il a lu la parole de Dieu. Il va la citer. Il a revêtu l'armure dont il parle dans Éphésiens 6, 10 et suivant. Est-ce que nous, lorsque nous sommes attaqués, nous laissons la chair nous guider? Ou est-ce que nous nous taisons en demandant au Seigneur de nous guider? De prier pour résoudre la situation? Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai dit un test, c'est de savoir, quand vous êtes confronté à un nouveau problème, à un problème, quelle est votre première réaction? Est-ce que j'essaye de résoudre le problème tout seul? Est-ce que je vais chercher de l'aide auprès de quelqu'un, d'autre? Un homme, une femme, des amis, la famille.
Your family, friends, your husband, wife.
Où est-ce que je vais à Dieu? Est-ce que je vais demander de l'aide à Dieu?
Do you ask God for his help first?
Est-ce que je prie?
Do you pray?
Puisse cette priorité vraiment être une réalité dans notre vie, dans ma vie. Je ne prétends pas avoir la maîtriser ces choses. Bien loin de là. Beaucoup de problèmes seraient évités. Et Christ serait glorifié. Autre critique, dictateur. Verset 8. Quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour vous édifier et non pour vous abattre. Je ne serai pas confus. Je ne veux pas paraître vous intimider par mes lettres. On lui faisait le reproche d'utiliser son d'abuser de son autorité d'apôtre. Et ce n'est pas son désir, il ne veut pas faire peur aux gens. Il ne veut pas dire, ah mais attendez, c'est moi l'apôtre du Seigneur. Il veut utiliser cette autorité que le Seigneur lui a confiée pour édifier, pour construire, non pour détruire. Il est plus facile, on me dit, de détruire que de construire. On va voir ça au local à Magnan. Paul nous dira ce qu'il en pense. Le prophète Jérémie avait été établi par le Seigneur pour arracher et abattre, pour faire périr et détruire, pour pouvoir bâtir et replanter. Called to destroy. Son désir, c'est encore pas une fois de se montrer comme le grand chef. Mais en même temps, s'il n'a pas cette autorité, si sa parole, si l'inspiration de ses propos n'est pas reconnue, les Corinthiens ne vont pas pouvoir grandir dans la foi. Ils vont continuer à être influencés par ces faux apôtres, ces adversaires de Paul. Lui, il nous a déjà dit dans 2 Corinthiens 1:24, il ne veut pas dominer sur leur foi. Mais il a une très belle expression, il veut collaborer à leur joie. Pour qu'ils soient fermes dans la foi. Ce serait difficile de refuser quelqu'un qui veut collaborer à notre joie, nous aider à être forts dans la foi en Christ, n'est-ce pas? Donc on lui dit dictateur, il dit non, je ne suis pas dictateur, je veux vous aider. Une critique qu'on lui adresse et qui n'est pas très, très noble. C'est qu'on dit qu'en fait il n'est pas très impressionnant, en personne, en apparence, ni en langage. Verset 10, on dit que ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, sa parole est méprisable. Il y a un texte extra-biblique, un texte de l'an 200. Un texte. Qui s'appelle les actes de Paul et de Thécla. Où nous avons une description de Paul. Qui était, d'après ce texte, un homme de petite stature. Il était chauve. Il y a des gens très bien qui sont chauves. Je parle de Chuck Smith. Il avait les jambes arquées. Il avait aussi, paraît-il, des sourcils broussailleux qui se rejoignaient. Il avait une touffe. Et il avait un nez plutôt crochu. On pense par ailleurs qu'il avait une maladie des yeux. Qui perturbait sa vision. et qui causait un espèce d'écoulement qu'il devait essuyer souvent. Bref, Paul n'était pas votre type évangéliste, télé-évangéliste typique californien. Blond, bronzé, plein de muscles.
Tanned, muscled, blonde.
Et il faut dire qu'en fait, c'était une attaque assez basse lorsqu'on s'en prend au physique d'une personne. Comme dirait Jacques Chirac, c'était d'accuser du délit de sale gueule.
That's it. Jacques Chirac said something.
Last week. Ils étaient tombés bien mal, manque de courtoisie, de respect. Et Paul ne répond pas vraiment à cette attaque. Parce qu'il sait que Dieu fait briller le trésor dans des vases de terre, nous l'avons étudié. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Disait Dieu au prophète Samuel. Ce qu'il va faire, il va expliquer un peu son action. Donc il leur a dit que il change pas. Il sera de la même façon qu'il est en présence d'eux ou en leur absence, il ne va pas retourner sa veste. Il va corriger leur perspective. Verset 7, on ne l'a pas mentionné, mais il leur a dit de regarder les choses en face. Si quelqu'un s'est persuadé lui-même d'être à Christ, s'il y en a qui vous disent qu'ils appartiennent au Christ, moi aussi je peux dire que j'appartiens au Christ. Paul, encore une fois, parle à ses adversaires, mais il parle aussi à l'église des Corinthiens qui suit ses adversaires. Et lorsqu'il dit regardez les choses en face, ça veut dire ne regardez pas seulement les apparences. Et c'est toujours une bonne réponse. Quand je vous dis vous n'êtes pas à l'heure, vous pouvez me dire mais il y a eu un éboulement surprise sur la route de ceci à cela. Souvent, nous critiquons sans avoir tous les éléments pour juger. Mais il reprend aussi leur orgueil spirituel. C'est une chose terrible que l'orgueil spirituel. Un autre auteur, William Barclay, a dit que toute religion qui conduit un homme à mépriser d'autres hommes et à lui faire croire qu'il vaut mieux qu'eux ce n'est pas une religion véritable. Ce qui veut dire que si vous pensez suivre Christ et qu'il vous conduit à vous croire supérieur aux autres, vous n'avez rien compris. Vous pouvez revenir à la case départ. Il donne une définition de l'Église qui devrait être une définition que nous vivons au quotidien. Une communauté de pécheurs pardonnés. On ne vaut pas mieux l'un que l'autre. Amen. Nous ne sommes que des pécheurs pardonnés qui nous réjouissons de la grâce de Dieu. Il va clarifier ses motivations, versets 8 et 9. Il va expliquer ce qu'il a dans le cœur. Nous l'avons vu, ne pas supposer que les gens ont compris ce qui vous motive. Et puis à partir du verset 11, il va dire qu'il est réel, qu'il est authentique. Et il dit, verset 12, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent à eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Généralement, le problème avec ceux qui se vantent d'eux-mêmes, c'est qu'ils se comparent à d'autres hommes. Un autre auteur parle d'une société d'admiration mutuelle. Et l'Église, ça ne devrait pas être une société d'admiration des grands prix de la chanson. J'étais toujours dégoûté des commentaires, des compliments sirupeux que les gens se font les uns les autres dans ce milieu. Mais c'est encore pire lorsque c'est dans le domaine spirituel. On peut toujours trouver quelqu'un de moins spirituel que soi. On peut aller les chercher dans les mauvais quartiers. Souvent, ce n'est pas là qu'ils se trouvent, mais on peut penser que là, ils sont vraiment loin du Seigneur. Mais il nous dit, il manque d'intelligence en faisant ça. Pourquoi est-ce que c'est stupide de faire ça? Parce que les compliments qu'on se fait soi-même, ça ne vaut pas grand-chose. Et ce qui compte pour le chrétien, ce n'est pas le compliment des hommes, mais celui de Dieu. Devant le tribunal de Christ, nous comparaîtrons un jour pour voir nos œuvres appréciées à leur juste valeur. Où il nous dit « Bien, bon et fidèle serviteur ». Ça, c'est le compliment que nous recherchons. Paul, une façon de répondre aux critiques, c'est de donner les éléments, les faits. Et il les remet à leur place. Il dit, c'est lui qui a implanté l'église à Corinthe. Il n'est pas allé dans une ville où il y avait déjà une église pour construire sur le travail d'un autre. Non, il est allé conquérir de nouveaux territoires pour le Seigneur. Et ça devrait être une remarque cinglante pour ces faux prophètes qui étaient venus sur les basques de Paul pour le critiquer. Et il leur dit que son ministère lui a été donné par Dieu. Verset 13, nous prenons au contraire pour mesure le domaine que Dieu nous a départi. Dieu nous a confié un travail. Et s'il est venu à Corinthe, c'était verset 14 pour annoncer l'évangile. Verset Verset 15, il leur dit qu'ils ne se glorifient pas des travaux d'autrui. Mais il dit en essence qu'il veut les voir grandir dans leur foi. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, s'il n'y avait pas toutes ces disputes, peut-être vous seriez prêts à aller conquérir vous-même d'autres territoires. Je parlais avec une sœur d'une autre église dans laquelle il y a des problèmes de personnes, pas encore de division, mais c'est très tendu. Et elle disait, mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas aller évangéliser au dehors au lieu de se disputer à l'intérieur ? Et c'est terrible lorsqu'une église se divise à l'intérieur sur des petits problèmes de personnes, de personnalités. C'est un peu comme si deux personnes se disputaient pour savoir s'ils vont boire du Perrier ou du Badois pendant que dans le désert autour d'eux, les gens meurent de soif. Puisse le Seigneur nous protéger de ces divisions. Et j'aime bien l'expression... En évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, Paul voulait toujours aller plus loin. Paul voulait exercer l'autorité que le Seigneur lui avait donnée dans son domaine. Ça, c'est un bon principe que nous pouvons tous appliquer. Que nous le voulions ou non, nous avons tous une certaine autorité, une sphère d'autorité, une sphère d'influence. Ça peut être dans le cadre de notre famille, dans le travail, dans le quartier, dans la politique. Mais faisons attention de ne pas exercer l'autorité qui nous est donnée dans un domaine, dans un autre domaine. J'ai une autorité parentale sur mes enfants. Mais si je vais voir des collègues de bureau et que j'essaye d'exercer la même autorité sur eux, ça risque de faire des étincelles. Et donc Paul lui dit, moi j'ai travaillé là où on m'a donné l'autorité, je continue à travailler, vous je ne sais pas ce que vous faites chez moi. Et puis, surtout, il leur dit de laisser Dieu glorifier son œuvre. Versets 17 et 18, « Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » On pourrait faire toute une étude sur ce sujet. Ce n'est pas les versets bibliques qui manquent sur ce thème. Paul disait, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques nous dit, qu'est-ce qui te distingue ? Qu'est-ce que tu... Non, ça c'est Paul. Qu'est-ce qui te distingue que tu n'aies reçu ? Si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te glorifies de ce que tu as reçu ? Comme si tu l'avais pas reçu, si ce n'était pas un cadeau. Proverbe, aussi, il y a plein de versets relatifs à ce sujet. qu'un autre te loue et non pas ta bouche. Un étranger et non tes lèvres.
A stranger, not your own lips.
Ça, pour nous missionnaires qui écrivons des lettres de nouvelles, c'est quelque chose auquel nous devons faire très attention. Décrivons les faits sans chercher la gloire. Le verset qu'il nous donne, en fait, est un verset qui est extrait de Jérémie 9, 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, oracle de l'Éternel. L'humilité, en fait, c'est le réalisme, c'est l'intelligence du réalisme. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. On raconte l'histoire du pasteur à qui une sœur venait dire merci pour le serment à la fin du culte. Et plein de fausse modestie, lui dit non, ne me remerciez pas, remerciez le Seigneur. Et la dame réfléchit un instant, elle dit non, c'était quand même pas aussi bien que ça. Si vous cherchez à vous élever, le Seigneur va vous rabaisser. Amen. Paul reconnaît toujours que c'est la grâce de Christ à l'œuvre dans la grâce de Christ dans sa vie qui fait l'œuvre. C'est pas l'inverse. C'est pas grâce à lui que Christ est magnifié. Et lorsqu'il se défend, il dit dans 1 Corinthiens 15, 10, on l'avait vu, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » C'est un cadeau. « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que... » Oh, il devient un peu orgueilleux là. « Non, pas moi toutefois, mais la grâce qui est avec moi. » 1 Corinthiens 15, 10. Les critiques. Comment y faire face? Comment s'en remettre? Peut-être des critiques qui vous ont fait très mal récemment. L'auteur que j'ai cité au départ dit qu'il faut d'abord faire sa propre autocritique. Rappelons que s'ils n'ont pas mis dans le mille, ils ont quand même touché la cible, quelque part. Et être prêt à dire ces mots terribles, « Vous avez raison et j'ai tort ». Un deuxième conseil, c'est quand vous savez que c'est vous qui avez raison, tenir ferme mais sans orgueil. Finalement, laissez calmement le Seigneur vous défendre. C'est lui qui doit être glorifié. Et être humble, c'est être comme lui. Donc prenez en compte les critiques qu'on vous donne, sachez faire la différence, mais ayez toujours en vous cet esprit qui était en Christ. Et soyez à l'heure la semaine prochaine. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci que tout ce que nous pouvons revendiquer, Seigneur, de bien, c'est cadeau. Ça vient de toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à recevoir ces choses pour les faire fructifier. Pour qu'elles portent du fruit pour ton royaume, Seigneur. Seigneur, et merci de nous enseigner dans ce domaine délicat de la réaction aux critiques. Comme c'est un test de notre maturité chrétienne, Seigneur. J'ai honte de moi, Seigneur, toutes les fois où je réagis dans la chair. Mais Seigneur, tu nous donnes des armes pour vaincre dans ce combat spirituel. Aide-nous à être dans ta parole, Seigneur. Avoir une attitude de prière. Aide-nous, Seigneur, à être davantage comme toi. Non seulement ton royaume grandira, tu seras glorifié, mais nous aurons la paix du cœur, Seigneur. Te demandons d'impressionner ces réflexions, ces versets, ces vérités bibliques dans nos cœurs, Seigneur. Nous prions ces choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.